auditeurs, auditrices, bonjour. Il est 11h sur Radio Campus Tours, sur le 99.5 FM. C'est Mélissa. Et alors, il ne vous aura pas échappé ce petit blanc malencontreux au début du générique. Hein. Ça arrive, les incidents techniques à la radio, mais rassurez-vous, nous sommes bien là. Et aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai un invité qui s'appelle Nathanaël Gobenceau. Bonjour.
Bonjour Mélissa.
Alors Nathanaël, médiateur au musée Rabelais. Donc peut-être tout d'abord, est-ce que vous voulez nous dire en quoi ça consiste ce métier de médiateur ?
Bah, médiateur, c'est en gros l'interface, le média, entre une certaine connaissance, un musée, une présentation d'œuvres et le public qui vient découvrir ces œuvres, ce musée.
Alors comment est-ce qu'on devient médiateur ? On ne se réveille pas du jour au lendemain comme ça, tiens, je ferais bien de la médiation.
Alors, dans la plupart des gens que je connais, ce sont des parcours très différents. Moi, mon parcours ne m'amenait a priori pas vers ça, puisque j'ai étudié la géographie, et plus particulièrement la géographie appliquée à la littérature, au récit de voyage, à Michel Butor, par exemple.
Ça consiste en quoi, alors, la géographie appliquée au récit de voyage ?
Ben, c'est étudier un peu comment certains voyageurs, Jean Giono, André Suarez, Hippolyte Taine par exemple pour moi, ont construit leur voyage en Italie, où ils sont allés et comment ils l'ont raconté. Et qu'est-ce qu'on en a gardé.
Bon, en tout cas, il y a une capacité à analyser des écrits, à imaginer un espace. Ça peut être intéressant pour être médiateur, ces compétences-là.
C'est vrai qu'on est toujours dans cette question d'espace. Hein. Un musée, c'est un espace de présentation, des parcours. Construire un parcours et puis accompagner les gens dans cette histoire finalement qu'on va leur raconter tout au long de la visite.
Voilà, alors peut-être que nos auditeurs, en tout cas les plus anciens, vont se dire mais alors, est-ce que médiateur c'est pareil que guide de musée ?
Alors, c'est l'héritier, on va dire, du guide de musée. En effet, autrefois, on avait cette appellation de guide. Alors, guide aujourd'hui, c'est une partie du métier de médiateur au moment où, en effet, on accompagne ces visiteurs, on leur montre les œuvres, on leur explique les œuvres, l'histoire du lieu, l'histoire de Rabelais en l'occurrence aussi pour nous, et de Gargantua, puisque c'est un peu notre principal sujet. Voilà.
Alors par exemple, est-ce que ça existe une journée type de médiateur au musée Rabelais ?
Alors l'intérêt, c'est que c'est très diversifié en fait, ce qu'on a chaque jour. Et donc, y a des moments d'accueil où on tient l'accueil boutique, on renseigne les gens et on leur vend des livres de Rabelais. Et puis après, on a ces visites à certains horaires. Et puis chacun, aujourd'hui, c'est ça qui différencie peut-être, moi j'ai pas connu vraiment les guides d'autrefois, mais qui différencie un peu de ce qu'il y avait à l'époque, c'est qu'on a d'autres missions. De création d'animation, moi par exemple je suis plus particulièrement responsable des réseaux sociaux, donc toute cette animation sur les réseaux, ça peut être de la conservation, vérifier que le taux d'humidité est bon dans le musée, ça peut être tout un tas de choses, la tenue de la boutique justement.
Et alors justement, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux ? Parce que là, c'était un des sujets il y a quelques années, le numérique au musée. Donc, du coup, comment ces outils-là sont utilisés ?
Voilà, depuis une dizaine d'années, en gros, les musées... Alors, le musée Rabelais, c'est un musée départemental.
Précisons-le.
Du conseil départemental. Et donc, depuis une dizaine d'années, on s'est lancé lentement sur Facebook d'abord, Instagram, YouTube un petit peu. Et puis donc, essayer de diversifier nos contenus. Donc on fait toutes sortes de choses, des photos aux petits films qui soit présentent de jolies images du musée que les gens aiment bien voir, soit des contenus un peu plus pédagogiques des fois, des questions pour voir où nos visiteurs en sont et ce qu'ils veulent venir apprendre chez nous.
Et alors justement ces supports YouTube, réseaux sociaux, c'est des choses qui sont... à regarder avant la visite, ou qu'on peut utiliser pendant la visite, ou si on veut se remémorer de bons souvenirs après la visite, comment ils sont utilisés dans les parcours de clients, mais disons de visiteurs, pardon.
Je pense que c'est une sorte, entre guillemets, de produit d'appel. qui voilà, nous on est un petit musée local, donc on est près de Chinon, à 7 km de Chinon, à Seuilly, et donc on a un public local, des visiteurs qui viennent du coin, mais on a aussi une dimension, puisque Rabelais est connu à l'international même, on a une dimension nationale et au-delà, et donc ces réseaux sociaux permettent aussi d'évoquer ce musée auprès de ces potentiels visiteurs qui viendront peut-être un jour après avoir aimé, admiré nos photos.
Ça veut dire que ces supports-là, ils sont à la fois des outils de médiation, donc pour expliquer des choses, transmettre des choses, mais aussi des outils de communication.
Voilà, c'est vraiment les deux. Et donc, en effet, on fait parfois un focus sur une œuvre, une petite explication, des choses un peu drôles.
Mais alors, quand il y a une nouvelle exposition qui arrive dans un musée, les médiateurs ont ce talent de transmettre les choses au public, enfin les savoirs au public, mais ça ne peut pas forcément dire que vous avez tous des thèses en histoire de l'art. Donc comment ça se passe? Comment vous préparez les visites? Comment vous pouvez acquérir vous-même des connaissances?
Alors oui, en effet, souvent, pour revenir à la question initiale, comment on devient médiateur, moi j'ai un parcours un petit peu particulier, mais souvent ce sont des profils soit littéraires, soit histoire de l'art. Donc pour arriver dans ce type de musée. Et voilà, j'ai oublié la question.
C'est comment on fait pour s'informer quand on est médiateur? Comment on prépare une visite? Est-ce qu'il y a un conservateur qui vous donne des tips, qui vous fait des fiches pour préparer vos visites?
Autrefois, c'était un peu ce qui se faisait. Le responsable du musée donnait la visite, on la prenait par cœur.
Tu diras ça.
Voilà, et ça, c'est le guide tel qu'on a pu le connaître, peut-être jusque dans les années, fin des années 80, je ne sais pas. Nous, on est plutôt libre. On peut construire, par exemple, sur Rabelais, il y a tout un tas de sujets. L'humanisme, la religion, la médecine. Donc on peut aller chercher des intérêts pour construire notre propre visite. Donc on a une bibliothèque au musée, et on fait nos recherches. On peut retrouver aussi pas mal de textes en ligne suivant les sujets. Et nos visites évoluent tout le temps finalement, puisque on peut découvrir ou redécouvrir un extrait de Rabelais qui nous évoque ceci qu'on avait censuré au début parce qu'on se disait c'est un peu... comment les visiteurs vont réagir, comment je vais gérer leur réaction. Et puis avec l'expérience, on se dit, ce sera rigolo, on verra.
C'est-à-dire qu'il y a toujours une part d'imprévu dans les visites?
Ouais, on peut au moins la provoquer, cette part d'imprévu. Ça dépend de la personnalité du guide. Mais on peut... il y a toujours des questions surprenantes. On ne sait pas le profil du visiteur qu'on va avoir. Ça peut être des gens qui découvrent, à qui on raconte une histoire. Ça peut être parfois des spécialistes. Parfois des pseudo-spécialistes qui nous posent des questions, parfois des gens engagés sur un sujet et qui vont nous faire remarquer que, voilà.
Et justement, c'est qui le public le plus difficile pour faire des visites? Est-ce que c'est les enfants qui courent partout? Est-ce que c'est les personnes spécialistes, justement, qui vont... apporter des précisions constamment?
Alors je dirais que ça dépend vraiment du profil du guide. Moi je dirais que c'est les enfants qui courent partout qui me sont plus difficiles. Et j'apprécie les questions parfois un peu plus pointues qui permettent aussi d'aller, de rentrer dans des sujets ou d'échanger et d'apprendre des choses des visiteurs aussi quand on ne sait pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de conditionnels aussi. Mais c'est vrai que le plus difficile à gérer, c'est un groupe hétérogène avec des adultes. Nous, on a un certain public. Pour arriver à la Devinière, faut connaître ou faut en vouloir. On passe rarement devant. Et donc, on a un public qui sait pourquoi il est là, bien souvent. Et donc, quand ça se mélange avec des enfants, des familles, c'est plus dur à gérer. Après, si les enfants, ça dépend des enfants aussi, hein.
Il y a sûrement les publics dits captifs, disons, des scolaires.
Oui, les scolaires. Nous, on a pas mal. En ce moment, Rabelais est au bac de français. Et donc, on a beaucoup de lycéens qui viennent jusqu'à 10 jours avant le bac réviser leur Rabelais. Et ça, c'est des publics assez rigolos. Moi, j'aime bien.
Et donc, justement, vous disiez qu'il y a des visites dans ce musée, au musée Rabelais. Est-ce que vous voudriez nous dire un peu quel est le panel des visites existantes en ce moment. Donc, on les retrouve aussi sur le site internet, mais peut-être voulez-vous nous en dire plus de vive voix.
Oui, du coup, oui, on a plein de... Alors, on a la visite guidée classique, un peu au tout venant, qui vient et qui peut s'adapter en fonction des... Quand on a un petit groupe, parce que, on a souvent des visites où on est moins d'une dizaine de personnes, donc en fonction des questions, notre visite va prendre un tour ou un autre, éventuellement. On a ces visites lycéens donc, qui préparent le bac. On leur propose, nous, un questionnaire en première partie pour qu'ils découvrent le musée. Et puis, dans une seconde partie, on revoit tout ça avec eux. On les accompagne en leur re-racontant l'histoire. Et puis, c'est là que c'est intéressant parce que souvent, ils ont bien préparé à l'avance. Ils aiment ou ils n'aiment pas les lycéens. Gargantua, c'est une littérature très particulière et les lycéens... Ouais, j'allais dire aux trois quarts, ils n'aiment pas trop quand même. Ils sont un peu choqués peut-être. Enfin choqués, sans être choqués, parce que je pense qu'ils voient pire.
Ils sont choqués parce qu'ils trouvent ça grivois, lourdingue. Pourquoi ça les...
Ouais, c'est un humour un peu... c'est l'humour rabelaisien. On appelle ça drôlatique, c'est-à-dire à la fois grossier et grivois, à la fois scatologique, c'est très pipi-caca quand même, Rabelais. Enfin, dans le premier degré de lecture. Et donc, je crois qu'ils sont surpris de trouver un humour comme ça dans un cadre scolaire a priori sérieux, où on leur demande d'être sérieux. Et là, il y a des mots pires que ceux qu'ils utilisent eux-mêmes.
Et une nouveauté, d'ailleurs, dans toutes ces visites, est-ce que vous voudriez dire un mot supplémentaire sur les visites qui existent, qu'on peut...
On adapte nos visites, par exemple pour les lycéens, on peut aller jusque vers l'utopie ou l'éducation, des choses comme ça. On a une visite virtuelle sur notre site internet aussi qui permet de découvrir un parcours sonore à l'extérieur qui permet de prolonger notre visite et avec des lectures de textes contemporains et d'extraits de Gargantua, dont nous, nos visites après, on va appeler ça peut-être des animations, où on a des visites, ça peut arriver, ça se construit après suivant les années, suivant les... Et des visites plus orientées sur la lecture d'extraits, vraiment. Donc ça peut s'adapter, ça peut évoluer, on n'a pas... C'est pas forcément très fixe dans le temps, quoi.
Il y a un autre nouveau support là, qui entre au musée Rabelais, c'est les podcasts. Vous êtes lancé dans la confection... de podcast, Nathanaël Gobenceau, et justement on a de la chance parce que vous nous en avez apporté trois aujourd'hui. Donc là on va écouter le premier, alors c'est quoi ?
Le premier, c'est l'arrivée au musée. Pour la petite histoire, moi j'ai travaillé sur Michel Butor. Michel Butor a écrit un livre qui s'appelle La Modification, et dans ce livre il parle à vous, il met le lecteur dans la position de celui qui va... Et être le livre, être le personnage du livre. Donc là, l'idée, c'est un peu la même. C'est se mettre dans la position du visiteur qui arrive et qui découvre ce musée pour la première fois.
Un podcast dont on est le héros, alors ?
Voilà, exactement.
Allez, c'est parti, en route vers Seuilly. Vous écoutez toujours La Méridienne.
Musée Rabelais.
Musée Rabelais.
Musée Rabelais.
La visite dont vous êtes le héros.
Chapitre 1er. Un musée insolite. Vous avez pris votre voiture. Vous êtes parti de Tours, peut-être, ou alors d'un bourg des alentours, à moins que vous ne veniez de plus loin encore. Vous avez pris la direction de Chinon, puis celle de La Roche-Clermault. En sortant du village, vous avez bifurqué sur une petite route qui serpente entre deux champs. Vous pensez, cette route est tellement petite qu'il serait préférable de ne pas croiser deux voitures venant en sens inverse.
Prendre la direction nord sur rue de la Devinière.
Enfin, voilà le panneau noir avec un grand R surmonté d'un petit M qui annonce le musée Rabelais.
Vous êtes arrivé.
Vous vous garez et vous empruntez le petit chemin aménagé qui mène à l'accueil du musée.
Bonjour. Bonjour.
Vous vous munissez d'un billet d'entrée et Vous voilà dans la cour. Vous pensez qu'ici vous êtes comme sorti du temps, comme extrait des chaos du monde. Vous notez le grand silence, juste quelques oiseaux qui piaillent dans les grands arbres. Vous vous faites la remarque que c'est un musée insolite, un musée aux champs installé dans une ferme du XVIe siècle. Il y a une cour carrée, gravillonnée, bordée de quatre bâtiments derrière lesquels on aperçoit des jardins. En face de vous, il y a la plus célèbre vue du musée, celle du fameux pigeonnier surmonté du logis avec son toit pointu. Sur la gauche, il y a une maison, dont une partie semble très ancienne, peut-être même qu'elle date de l'époque de Rabelais. Sur la droite, il y a une grande bâtisse aux menuiseries rouges, couleur qui semble être une signature visuelle du lieu. Dans son prolongement, vous apercevez un puits et une auge en pierre. Vous consultez le guide de visite et en regardant sur le plan, vous comprenez que sur la droite, même si d'ici vous ne les voyez pas, il y a de grandes caves qui s'étalent sous le coteau. Face à cette vue, vous vous interrogez. François Rabelais a-t-il vu ces bâtiments tels que je les vois aujourd'hui ? Vous vous penchez de nouveau sur le plan, vous repérez la pièce numéro 1, vous vous élancez à travers la cour vers la petite porte surmontée d'une cloche.
De retour sur Radio Campus Tours, nous venons d'écouter Auditeurs, Auditrices, un podcast réalisé par Nathaël Gobanceau, donc qui est, si vous écoutiez, vous le savez déjà, qui est médiateur au musée Rabelais. La Devinière, c'est à Seuilly. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce podcast ? Ça a été créé en combien de temps ? C'est un gros travail d'écriture aussi ?
Alors, je ne saurais pas trop évaluer, parce que ça s'est fait en plusieurs... Voilà. Plusieurs sessions, mais en effet, une écriture, trouver l'idée, une écriture un peu du texte quand même, et puis ben, les enregistrements à faire, à refaire. Et bon, ça a été fait plus ou moins cet hiver ou à la fin de l'hiver, et donc on n'entend pas les oiseaux qui piaillent maintenant, et on ne voit pas dans ce podcast les fleurs qui ont été écloses depuis.
Voilà, bon, ça y est, nous sommes à Seuilly, alors peut-être qu'on peut en savoir plus maintenant sur le lieu en lui-même. Hein. Imaginons que nous n'avons jamais mis les pieds à la Devinière.
Alors moi, j'aime bien dire que ce musée, donc, comme je disais dans le podcast, c'est un musée aux champs, c'est un musée insolite, puisque situé dans une ferme, vraiment au milieu des champs, de la campagne, dans un tout petit hameau, c'est un lieu de calme et de volupté finalement. Que ce musée, ce que beaucoup de visiteurs apprécient, c'est ce calme quand ils arrivent, cette tranquillité de visite, cette zénitude quelque part, et quand il fait beau, les jardins avec les transats pour se poser et méditer sur tout ce qu'on vient d'entendre en visite guidée, par exemple.
Et ça ressemble à quoi alors ? C'est un bâtiment qui est classé ? Comment c'est ça ? À quelle tête cette Devinière. On a déjà plein d'éléments dans le podcast, mais du coup, le bâtiment, comment...
Donc c'est vraiment, c'est ça aussi qui est particulier. Ce n'est pas un musée dans lequel on rentre, on fait le tour et on ressort. Ce sont plusieurs pièces, on ressort de chaque pièce à chaque fois. Les pièces ne communiquent pas vraiment entre elles. Donc c'est ce qui faisait la vie d'une ferme à la fin du Moyen-Âge, puisque les plus anciens bâtiments datent de cette époque. Le logis, avec la chambre présumée natale de Rabelais, on est fin du 15e, quelque chose comme ça. Et donc on a à chaque fois ces bâtiments, ce pigeonnier. Alors, quand on a vu les supports de communication du musée, souvent on a ce pigeonnier avec ses boulins, ses trous pour les pigeons. Même s'il n'était pas tout à fait peut-être comme ça à l'époque de Rabelais, puisqu'il s'est écroulé après, mais a été reconstruit et donne... Donc ce sont des bâtiments en tuffeau, dont on parlait des caves dans le podcast, ce sont des caves qui ont servi de carrière de pierre à l'origine pour construire tout ce hameau, tous ces bâtiments. Donc aujourd'hui on a plus de 500 mètres carrés de caves. On peut imaginer qu'à l'époque de Rabelais il y en avait un peu moins, puisqu'on a continué à construire depuis. Et donc voilà, ça donne une lumière formidable, ce tuffeau, quand le soleil rase dessus. Et donc voilà, on a ces différents bâtiments autour d'une cour que les visiteurs vont pouvoir découvrir au fur et à mesure.
Et ces fameuses caves, alors elles servent à quoi ? On y fait des concerts de jazz ? Qu'est-ce qu'on y fait dans les caves ?
Alors elles servent à la fois d'exposition, enfin de lieu d'exposition pour des choses... pas trop fragile, pas trop... voilà. Longtemps, il y a eu des citations de tous les écrivains qui ont parlé de Rabelais, depuis notre collègue Ronsard, jusqu'aux écrivains les plus contemporains. Et donc, on pouvait faire le tour et découvrir ces citations. Et en effet, c'est un grand espace, il y a des grandes pièces, des caves troglodytiques, hein. On a... une partie un peu aménagée aussi, avec une cheminée, une chambre, des pressoirs qu'on utilisait autrefois. Et puis aujourd'hui, ces grandes pièces, en effet, on les utilise pour des concerts, notamment avec le Petit Faucheux, des concerts de jazz qui viennent.
On salue le Petit Faucheux au passage, hein, puisqu'on a la chance d'avoir un partenariat avec eux. Allez, je fais ma petite pub.
Et nous aussi.
Et voilà, donc comme quoi les grands esprits se rencontrent. Hein, parce qu'on a la chance de pouvoir diffuser les fameux concerts du Petit Faucheux le dimanche sur nos ondes de 21h30 à peu près. Ces crossovers terminent à l'heure. Et voilà, donc toutes les semaines, c'est un concert différent. Et cette programmation ne s'arrête pas pendant l'été. Voilà, en effet, auditeurs, auditrices, vous aurez la chance d'entendre des concerts surprises, donc des choses que vous avez peut-être déjà entendues sur nos ondes. Mais voilà, rendez-vous dimanche, on nous en dira pas plus pour le moment.
Et voilà, nous aussi, hein, nous ne nous arrêtons pas avec le Petit Faucheux pendant l'été, puisqu'on en aura un concert le 20 juillet au musée, dans l'après-midi. Quand il fait beau, c'est dans la cour. Quand il fait moins beau, c'est dans les caves. Et ce sont des lieux assez idylliques, je pense, pour les musiciens.
Voilà, donc une petite Faucheux We Trust, hein, avec mon très bon accent. Et justement, revenons-en à Rabelais. Donc, à Skip, c'était sa maison. C'est des choses, des faits établis, ou alors c'est hypothétique ?
Alors c'est difficile avec Rabelais, parce que justement toute son enfance, on n'en sait pas grand-chose. Il naît vers 1490, on a plusieurs dates de naissance. Certains disent 1483, d'autres 1494, donc on est déjà sur une période de 10 ans. À vrai dire, a priori, on n'en sait pas grand-chose de cette date de naissance. Il apparaît vraiment vers 1520, en fait, au moment où il va devenir moine dans le Poitou. Et à partir de là, ben, on peut à peu près le suivre dans sa vie. Mais donc toute son enfance, puisqu'il a peut-être 30 ans en 1520, toute son enfance, c'est plutôt hypothétique. On a ce lieu qu'on appelle la maison natale de François Rabelais, avec sa chambre présumée natale. Est-ce que sa mère a eu le temps de venir depuis Chinon jusqu'à Seuilly pour faire naître dans cette ferme familiale, puisque la famille Rabelais habite à Chinon, son père est avocat à Chinon. Et donc faire naître le futur François dans ce lieu où elle a probablement fait naître ses enfants précédents. Est-ce qu'elle n'a pas eu le temps d'arriver et qu'il naît à Chinon ? Et d'autres même émettent l'hypothèse que Gargantua, par certains points, serait autobiographique et que Rabelais serait né en cours de route dans une prairie. Mais c'est peu probable.
Qu'est-ce qui est si intéressant dans ce personnage de Rabelais, pour le médiateur que vous êtes ?
Alors Rabelais, on a tous, même quand on ne connaît pas Rabelais, on fait du Rabelais. On a tous une image, voilà, de Gargantua. Souvent, on sait que ce sont des géants un peu grivois, qu'on boit beaucoup. On connaît ces termes gargantuesques, pantagruéliques, autour des grosses bouffes, des banquets. Et on a, voilà, les visiteurs, quand ils arrivent, en fait, ils ont un peu cette image, bien souvent, pour la plupart. Et du coup, on va essayer de les faire rentrer dans le côté sérieux de Rabelais. Il y a ce premier degré pour accrocher son lecteur. Il écrit quand il est médecin à Lyon, donc pour amuser ses malades, pour les aider à guérir par le rire. D'où ce, voilà, ce premier degré avec des géants qui pètent et qui rotent, hein, en gros. Et derrière tout ça, quand même, c'est l'humanisme, un des grands humanistes de la Renaissance, et qui va faire passer tout un tas de messages, qui va critiquer l'Église de son temps, qui va subir la censure, qui va évoquer l'éducation, proposer l'éducation humaniste à travers l'éducation de Gargantua. C'est presque un programme d'éducation à changer, critiquer l'éducation du Moyen-Âge pour proposer de nouvelles choses. Comme il dit dès le début de Gargantua, hein, quand vous lisez mon livre, attention, l'habit ne fait pas le moine, rompez l'os pour en sucer la substantifique moelle. Donc aller chercher derrière les apparences, il n'y a pas que des géants qui pètent et qui rotent, mais il y a aussi tout un tas de choses extrêmement sérieuses, extrêmement critiques. Et autour de la liberté d'expression, on ressort souvent Rabelais.
Et alors justement, cette fameuse éducation de Gargantua, est-ce que vous voulez nous en dire plus? En quoi elle consiste?
Alors, il reçoit deux éducations. Son père, Gargantua, pour la petite histoire, quand il naît, il dit « à boire, à boire, à boire », c'est son cri. Et ça veut dire bon, boire du vin. Le vin, c'est un peu le symbole de la sagesse. C'est voilà, « nourrissez-moi de tout, de nourriture comme de savoir. Je veux découvrir le monde, je veux tout apprendre finalement. Je veux tout découvrir. » Donc il va avoir cette volonté de bien travailler, d'être très curieux. Et ça commence par l'épisode du torche-cul, où il dit à son père, pendant qu'il est parti à la guerre, « Papa, pendant que tu n'étais pas là, j'ai trouvé le torche-cul idéal. » Et son père est très ébahi devant le raisonnement que va lui donner son fils, qui a essayé tous les vêtements de sa mère, tous les animaux du jardin, toutes les plantes du jardin, pour savoir quel est le torche-cul idéal. Ben, vous lirez Gargantua pour savoir, parce que ça peut toujours servir.
Et alors la différence, en fait, le schisme entre les deux formes d'éducation reçues par Gargantua, en quoi ça consiste?
Et donc voilà, son père s'aperçoit, va lui donner l'éducation à l'ancienne, médiévale, et va observer que son fils travaille beaucoup, mais finalement n'apprend pas grand-chose. On lui apprend l'alphabet à l'endroit à l'envers, on lui apprend le calendrier, on lui apprend à réfléchir par cœur, enfin à apprendre par cœur des choses et sans réfléchir. Et donc il se dit, bon, il travaille beaucoup, mais c'est pas terrible. Donc il va lui mettre un professeur humaniste, et là, il va apprendre en s'amusant, il va apprendre en observant la nature, il va apprendre à mettre de l'eau dans son vin, à goûter toutes sortes de choses. Si vous voulez, Gargantua est gargantuesque avant d'avoir été éduqué, au sens qu'on utilise, et il se goinfre de toutes choses, et là, on va lui apprendre à se modérer. Gargantua, c'est le fils du roi de la Devinière, il faut en faire un bon prince humaniste, un peu à l'image de François Ier, si on veut. Un prince éclairé, capable de régner sur son peuple de façon juste. Et donc, cette éducation va lui permettre de devenir ce bon prince humaniste, curieux, sportif, etc. Certains disent que même si Gargantua choisit des géants, c'est peut-être parce que François Ier était très grand.
Ah ah ! Un nouveau mystère ! Et alors, continuons sur notre lancée d'écoute de podcast. Voici que nous allons en écouter un second. Alors, en quoi ça consiste?
Alors, on va rentrer un peu dans notre métier de médiateur, tel qu'il est souvent perçu un peu de l'extérieur, c'est-à-dire la visite guidée. Et donc là, cette fois-ci, notre visiteur qui arrive va se retrouver dans une visite guidée. Et justement, on va parler du début du roman, du début de l'histoire de ces géants, avec la naissance de Gargantua.
Allez, auditeur, ouvre tes esgourdes.
Misérablé. La visite dont vous êtes le héros.
Chapitre 3. L'origine du monde rabelaisien. Vous avez monté les marches usées qui mènent à la chambre où serait peut-être né Rabelais. Un des grands peut-être, avec l'incertitude de sa date de naissance. Il y a une visite guidée qui est en cours, vous vous y joignez. Vous vous asseyez sur un petit siège de pêcheur qu'on vous a donné à l'accueil. Vous vous apprêtez à écouter le guide faire la lecture de la naissance de Gargantua.
De Gargantua, donc, que l'on retrouve au tout début du roman. C'est la grande porte, finalement. Cette naissance, c'est l'entrée dans l'univers de Gargantua, dans l'univers de Rabelais. C'est l'origine du monde de Rabelais. Vous allez voir. Une origine du monde bien particulière. Peu de temps après, Gargamel commença à soupirer, à se lamenter et à crier. Aussitôt, des sages-femmes surgirent en foule de tous côtés. En la tâtant par en dessous, elles trouvèrent quelques membranes de goût assez désagréable, et elles pensaient que c'était l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait à cause du relâchement du gros intestin, celui que vous appelez le boyau du cul, dû à ce qu'elle avait mangé trop de tripes. Alors, une repoussante vieille de la troupe, qui avait la réputation d'être guérisseuse, lui administra un astringent. C'est une sorte de médicament. Si formidable cet astringent, que tous ses sphincters en furent contractés et resserrés, à tel point que c'est à grand-peine que vous les auriez élargis même avec les dents, ce qui est chose bien horrible à imaginer. Par suite de cet accident, les cotylédons de la matrice se relâchèrent au-dessus, et l'enfant les traversa d'un saut. Il entra dans la veine creuse et grimpant à travers le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, à l'endroit où la veine en question se partage en deux, l'enfant prit le chemin de gauche et sortit par l'oreille de ce même côté. Sitôt qu'il fut né, il criait à haute voix « À boire, à boire, à boire !» Et pas que du lait, hein. Donc, dans ce passage, on retrouve deux parties. La première, d'une tonalité un peu plus grivoise, et la seconde, où on retrouve le Rabelais médecin qui apparaît, qui nous décrit ce corps, ce parcours de naissance, certes un petit peu fantaisiste, mais avec des éléments d'anatomie. Et lorsque Gargantua, à peine sorti du ventre de sa mère, demande à boire, c'est bien entendu du vin. Nous sommes quand même en chinonnais. Et symboliquement, boire du vin, ça veut dire être curieux, vouloir apprendre. Apprendre pour atteindre la sagesse. En réclamant du vin, finalement, Gargantua veut tout absorber, nourriture comme savoir, pour devenir sage, pour devenir un bon prince humaniste.
Merci Nathalie Gaumanceau pour ce second podcast qui nous permet d'entrer de plein pied, disons, au musée Rabelais, à la Devinière, à Seuilly. Alors je pense qu'on peut rappeler aussi aux auditeurs qui arriveraient en cours de route que la Devinière, c'est pas non plus un mausolée à la mémoire de Rabelais.
Oui, c'est un peu, à l'image du personnage, hein, c'est très vivant. Et en effet, on a tout un tas d'animations autour. Pour animer ce musée et en faire quelque chose d'extrêmement vivant. Donc à travers les visites, hein, où on transmet et où on échange aussi avec les visiteurs, puisque finalement une visite, c'est un aller-retour entre le guide et le visiteur, et l'un et l'autre vont se donner de l'énergie réciproquement. Et donc on a toute une programmation autour de tout ça. On a parlé tout à l'heure des concerts avec le Petit Faucheux. Donc le prochain aura lieu le 20 juillet dans l'après-midi. On a en ce moment notamment une grosse exposition autour de Gargantua qui vient de commencer Et donc ça présente Gargantua le mythe, ça s'appelle, et ça présente ce géant, remis un peu en perspective aussi dans l'histoire des géants, la mythologie des géants. Et on présente un certain nombre d'œuvres prestigieuses, notamment enfin, d'auteurs, d'artistes plus connus, un tableau de Bruegel, par exemple, des dessins de Dali ou de André Derain, entre autres, de très jolies pièces.
C'est aussi un lieu de conférence, la Devinière.
Alors, il peut, voilà, on a tout un tas de choses, d'animation ou de rencontres autour de Rabelais. On peut accueillir en effet des conférences. Pendant un temps, nous avons accueilli aussi des écrivains en résidence qui nous laissaient des textes derrière, qui découvraient le musée, ressentaient le musée et nous laissaient leurs impressions dans des textes inédits pour spéciaux pour ce musée. On a aussi du théâtre chaque été, par exemple. On a ces spectacles qui emmènent entre le musée de la Devinière et l'abbaye de Seuilly, un autre lieu important pour Rabelais. Et donc cette année, on a la vie de Gargantua, racontée par la compagnie Le Gai Saber. Et donc, en général, c'est musical, amusant, théâtral, drôle.
Et alors, pour ceux qui sont plutôt, disons, nature et découverte, je crois qu'il y a aussi des randonnées autour de la Devinière.
Voilà, on peut arriver au musée de différentes façons. On peut arriver par la grande route. Bon, nous, là, c'est une toute petite route pour arriver jusqu'à la fin. On est vraiment au bout du chemin, presque. On peut arriver, en effet, en vélo, puisque bon, y a tout un tas de circuits de vélo. On est un peu à l'écart de la Loire à vélo, mais pas très loin. Et puis des circuits de randonnée qui font tout le tour, qui nous emmènent vers Lernay, par exemple, vers l'abbaye de Seuilly, vers faire le tour une douzaine de kilomètres autour du musée et découvrir un peu ces lieux du roman, finalement.
C'est des randonnées thématiques ?
Oh là, c'est des randonnées... Il y a la thématique des arrêts liés à Rabelais, mais ce sont avant tout des randonnées.
Voilà, bon, ça reste des randonnées accessibles au plus grand nombre, ou alors faut quand même justifier d'un peu d'entraînement pour faire ces randonnées autour de Rabelais.
Alors, c'est pas du trail, hein. Non, c'est une douzaine de kilomètres. Je me rappelle plus par cœur, mais il y en a une peut-être un petit peu plus courte aussi. Donc, c'est assez facile, hein. C'est un paysage vallonné. Ça monte un petit peu, mais ça va.
Voilà, donc un pèlerinage Rabelais, si on veut, pour tous et toutes.
Ah, donc nous, notre région, notre territoire, notre terroir s'appelle la Rablaisie. Autour de Chinon, voilà, on est en Rablaisie. Le paysage t'en passe peut-être d'être classé aussi. Enfin, c'est un paysage remarquable, un paysage de littérature. Donc on ne peut pas y faire n'importe quoi, notamment. Et donc... Donc voilà, c'est la Rablaisie, c'est en effet à la fois un pèlerinage qui nous amène vers le musée, l'épicentre rablaisien et l'épicentre du roman Gargantua, mais tout autour, on a tout un tas de lieux évoqués dans le roman ou qui peuvent faire écho, pourquoi pas, à l'enfance de Rabelais, et donc nous emmener par là.
Voilà, donc à toutes fins utiles, rappelons que on ne jette pas de papier dans la nature, on ne fait pas de feu de bois non plus, c'est pas de très bonnes idées, tout ça. Voilà. Et puisqu'il est question de concerts et de musique, on va écouter un peu de musique. Alors là, vous avez choisi une pause musicale, vous vouliez nous faire découvrir une formation musicale qui s'appelle Malicorne. Alors de quoi est-il question ?
Oh, Malicorne, c'est un groupe qu'on appelle de musique trad, mais tendance un peu peut-être rock évolutif, suivant les morceaux. C'est la frange un peu rock'n'roll du mouvement, du renouveau trad des années 70, quand on a redécouvert toutes ces chansons médiévales, renaissance, 19e, 18e. Et donc, ils l'ont fait avec des instruments, parfois des guitares électriques, parfois des basses, parfois des claviers, et parfois aussi des instruments plus classiques. de type épinette des Vosges ou choses comme ça, ou mandole.
Allez, on écoute Le Mariage anglais dans la Méridienne sur Radio Campus Tours. C'est le choix de notre invité Nathaël Gobenceau, qui est médiateur au musée Rabelais. C'est la Devinière à Seuilly, rappelons-le, hein, on ne le dira jamais assez. A tout de suite.
D'un roi français que l'on marie à un anglais. Oh mes chers frères, empêchez de m'emmener. J'aimerais mieux soldat français que roi.
C'était Malicorne, Le Mariage anglais sur Radio Campus Tours 99.5 FM. C'est toujours la Méridienne. Alors merci, cher invité, pour cette découverte musicale. Je ne sais pas si nos programmateurs musicaux nous écoutent, mais je pense que ça pourrait peut-être aller dans notre catégorie OVNI, puisque on a des OVNI même, on a des OVNI musicaux dans les playlists de Radio Campus. Peut-être que cette chanson-là pourrait y entrer. Alors, hors micro, j'ai appris qu'il y avait un lien entre ce groupe Malicorne et John Baez. C'est quoi?
Le chanteur a écrit des chansons qui ont été reprises. C'est les héritiers français, on va dire, de Bob Dylan et de ceux qui l'ont inspiré. Et un jour, Pete Seeger a dit aux Français, aux Européens, arrêtez de chanter les folk blues américains et chantez vos propres chansons traditionnelles. Et du coup, Malicorne est allé chercher dans les livres, dans les bibliothèques pour ressortir de vieilles chansons traditionnelles. Et donc, voilà, ce chanteur, un jour, a écrit une très belle chanson qui a été reprise par John Baez, pour boucler la boucle.
Voilà. Revenons-en, j'allais dire, à nos moutons, en tout cas, à la maison Rabelais. Donc, il y a une belle fête, là, quelques agapes qui s'annoncent. C'est la Saint-Gargantua.
Voilà, dans la foulée du concert avec le Petit Faucheux, le 20 juillet prochain. Donc, à 16h, il y a le concert de jazz. Donc, c'est avec le trio Zooper. Donc, une musique énergique, un jazz énergique. Et donc, après leur concert à 16h, il y aura une dégustation de vin à 17h30 et puis suivi d'un banquet à 20h avec des ripailles et des sonailles. Et entre les deux, l'artiste chinonais Jean-Pierre Blanchard qui va faire une performance.
Et alors c'est quoi le menu ?
Alors le menu, je ne l'ai pas sous les yeux.
Ah non, mais c'est pour savoir, parce que si parmi nos auditeurs, certaines personnes mangent des choses et pas d'autres, peut-être qu'il est bon de les informer.
Ah, oui. C'est un menu gargantuesque, on va dire.
Voilà, bon, vous irez vérifier sur les...
Voilà,
les
sur le site internet, on doit le retrouver.
Voilà, justement, puisqu'on en parle, est-ce que vous voulez nous rappeler où on peut aller trouver des informations complémentaires à cette émission sur les sites et autres réseaux sociaux ?
Alors donc, on a le site internet du musée, qui est très, bon, très complet sur les animations, l'agenda, etc., mais aussi qui va au-delà, avec une partie un peu qu'on a appelée blog. Peut-être que c'est désuet aujourd'hui, les blogs, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans laquelle on peut trouver tout un tas d'informations, des articles sur Balzac et Rabelais, par exemple, sur Milan Kundera et Rabelais, des choses comme ça, François Bon et Rabelais. Et puis tout ce qui est administratif, enfin utilitaire pour... bien préparer ça, découvrir le musée, les différents espaces de visite qui sont présentés et les choses, l'agenda, les horaires, tout un tas de choses comme ça.
Voilà, d'ailleurs, soyons bassement pragmatiques, c'est quoi les horaires de cette maison Rabelais et quels sont les tarifs ?
Alors, le musée a cette particularité d'être ouvert toute l'année. Et donc, les horaires changent suivant les périodes de l'année. En ce moment, c'est 10h, 13h, 14h, 18h, avec une pause au milieu. Et à partir du 1er juillet, ce sera 10h, 19h, sans interruption, pendant tout l'été jusqu'à la fin août. Et les tarifs, du coup, c'est 6€ en plein tarif et 5€ pour les étudiants.
Voilà, c'est une somme assez modique quand même. Voilà, il y a aussi la boutique Souvenir, hein, ne pas négliger, qui est sur le lieu aussi.
Oui, du coup, pour prolonger la visite, on peut s'immerger dans cette bibliothèque, pratiquement, où on retrouve toutes les œuvres de Rabelais. Bon, en gros, il en a écrit 5. Hein, donc, voilà. Et 5 histoires de géants, mais on oublie que Rabelais, c'était aussi un grand scientifique de son temps et qu'il a écrit des livres scientifiques, qu'il a traduit Hippocrate du grec au latin, par exemple. Mais voilà, tout ce qui est autour de Rabelais pour tous les âges, des BD, des livres sérieux, des livres universitaires, les romans dans différentes translations, puisqu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des traductions du français ancien au français nouveau. Et puis des produits, tout un tas de petits produits pour amuser les plus jeunes visiteurs. Ou...
plus ou moins jeunes.
Ou ça peut amuser les moins jeunes aussi.
Voilà, alors justement...
Et puis, nous avons aussi... l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais nous faisons notre vin sur le site. On a des vignes, et donc on propose aussi du vin blanc, du vin rouge... du Chinon.
Mais qui ça, on fait notre vin ? C'est les médiateurs qui sont mis à contribution ou vous avez aussi une équipe dédiée à cette mission-là ?
Alors non, le médiateur, il photographie les étudiants qui viennent couper le raisin et faire les vendanges. mais c'est avec le lycée agricole de Fondette, donc à une antenne viticole du côté de Chinon et qui nous fait tout ça.
Voilà, donc c'est un partenariat, c'est intéressant ça aussi à savoir sur nos ondes de Radio Campus qu'il y a là ce partenariat avec ce lycée viticole sur ce point précis. C'est-à-dire qu'ils font tout, ils cueillent le raisin, comment ça se passe, la mise en bouteille, le pressage, ils font tout?
Alors après, dans le détail, moi je ne les vois que sur le site, donc je les vois couper le raisin, se couper les doigts accessoirement. Mais après, je ne sais pas exactement ce que font les enfants ou les étudiants. Parce qu'en fait, ça peut être différents âges. On a été assez jeunes cette année, hein, fin de collège, début de lycée. Et parfois, ce sont des étudiants un petit peu plus âgés du coup.
Voilà, bon, je sens que c'est un nouveau sujet de podcast, d'aller investiguer la fabrication du vin à consommer avec modération, rappelons-le, à cette maison Rabelais. Maison Rabelais qui appartient justement aux structures culturelles qui sont, disons, gérées par le département. Alors peut-être qu'un mot là-dessus quand même, et de rappeler que bah, ce n'est pas la seule, il y en a d'autres.
Alors ce n'est pas une des missions du département, a priori, d'avoir des monuments historiques, mais le département d'Indre-et-Loire est celui qui doit avoir le plus de monuments historiques en France. Et donc, en effet, il y a le château de Chinon à côté de chez nous, le château de Loches, la forteresse, enfin la cité royale de Loches. Et puis aussi, notamment, alors, le musée du Grand Pressigny sur la préhistoire, l'hôtel Gouin à Tours, et puis autour de l'art contemporain, bien souvent, ou bientôt avec une exposition Courbet, il me semble. Et puis les maisons d'écrivains. Donc on a cette chance d'avoir trois maisons d'écrivains. Ronsard à La Riche, le prieuré Saint-Côme. Le musée Balzac à Saché, donc près d'Atel-Rideau. Et puis la Devinière aux confins du département et de la région.
Allez, on va écouter un dernier podcast, Nathanaël Gobenceau, voilà, qui est aussi de votre cru, j'ose dire, parce qu'on parlait de vin, ça tombe bien. Voilà, donc c'est quoi ce dernier podcast?
Alors cette fois-ci, c'est le paysage. Et voilà, moi, en tant que géographe, j'aime bien parler du paysage. Et donc ce paysage a une importance tout à fait particulière dans l'histoire, puisque c'est le paysage à la fois d'enfance de Rabelais et le paysage du roman Gargantua. C'est Gargantua, quand on est au musée, qu'on regarde le paysage, on voit quasiment tous les lieux du roman, à part le moment où il va à Paris pour pisser sur les Parisiens et en noyer 200 000 au passage. Ils ne sont pas contents. Hein. Et donc on va sur 5 km carrés quasiment, on a tout le roman, tout. Voilà.
Bon, et ben, écoutons ça alors.
Musée Rabelais. La visite dont vous êtes le héros.
Chapitre 4. Le paysage de Gargantua.
Vous avez maintenant terminé de visiter le logis. Avant de descendre vers les caves, vous décidez d'aller jeter un œil au paysage dont vient de parler le guide. Vous laissez donc le logis dans votre dos et vous vous engagez dans les jardins. Vous comprenez combien ce paysage d'enfance a pu marquer l'écrivain pour qu'il en fasse le territoire de son roman. Cette campagne appelle au calme et à la sérénité. Les plis de terrain sont doux, les couleurs varient en nuances de vert, le blanc et quelques nuages s'effilent dans le bleu du ciel. Et pour ajouter à ce tableau, le soleil descendant de fin d'après-midi accentue les contrastes et les reliefs. Sous un pommier, il y a quelques chaises. Plutôt que de vous asseoir pour profiter de l'ombre, vous préférez atteindre la table d'orientation qui situe tous les lieux fictifs du roman Gargantua dans ce paysage réel. Vos yeux font des allers-retours entre cette table et la vue. Vous essayez de retrouver la prairie où est né Gargantua, le carrefour où commence la guerre Picrocolline, et sur la droite, l'abbaye de Seuilly où réside Frère Jean. Vous êtes particulièrement impressionné par ce château qui s'élève en meringue majestueuse sur la colline opposée. La carte mentionne qu'il s'appelle le château du Coudray et qu'il est évoqué à la fin du roman. Vous vous mettez quelques instants dans les yeux du jeune Rabelais. Vous faites abstraction des quelques voitures qui passent sur la petite route en contrebas et des autres visiteurs avec leurs téléphones pour laisser votre imagination vous emmener à la fin du Moyen-Âge. Vous gambadez maintenant à travers les vignes comme à vos 10 ans, imaginant déjà quelques facéties à faire aux métayers de la ferme ou aux religieux de l'abbaye.
Et voilà, auditeurs, auditrices, c'était un troisième et dernier podcast créé par Nathanaël Gobanceau, qui est médiateur à la Villa Rabelais, mais non, à la Maison Rabelais, de Vignières, c'est pas la même chose.
Alors, la Maison Natale Rabelais, comme dans les territoires et les terroirs d'écrivains, on les réutilise un peu à toutes les sauces, il y a les Maisons Rabelais qui sont souvent des boulangeries ou des lieux d'agape, de nourriture. Nous, c'est la maison natale, le musée Rabelais, la Devinière. Musée.
Voilà, c'est important, hein, pas d'erreur. Et alors,
sinon, vous allez vous retrouver face à des pains au chocolat. Hein.
Pourquoi pas, hein,
c'est bien aussi.
Alors qu'il est, c'est pas mal. Il est presque midi. Et justement, pour terminer cette émission, on peut-être indiquer à nos auditeurs et à nos auditrices où aller réécouter tous ces podcasts et peut-être même des inédits.
Alors voilà, les podcasts vont être mis en ligne sur notre site internet. Donc, en suivant sur les réseaux, hein, nous sommes présents donc sur Facebook et sur Instagram. Nous partagerons les liens de page. Nous avons gardé cette primeur pour Radio Campus, mais d'ici le début de la semaine prochaine, on essaiera de mettre ça en ligne. Et en effet, nous avions préparé 4 podcasts, et donc il y en a un que nous n'avons pas écouté, autour du portrait de Rabelais par Matisse. Mais comme dans le cadre de l'exposition Gargantua, Matisse a été remplacé par Dali et Bruegel. Voilà. Mais ça permet de voir ce beau morceau du musée, de l'entendre et de l'imaginer.
En attendant les futurs podcasts, parce que j'imagine que l'idée, c'est de continuer à produire des contenus sonores.
Oui, tout à fait. Et donc, là, ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire des podcasts de découverte pour les lycéens, enfin, à destination des lycéens, pour aider les enseignants, ceux qui viennent en début d'année, qui n'ont pas encore parlé de Rabelais à leurs élèves, par exemple, de pouvoir passer comme ça 5-10 minutes de petits podcasts dans le bus. Avant d'arriver et qu'ils arrivent en ayant une petite idée, une lecture, j'allais dire un torche-cul dans l'oreille. Mais
voilà, en tout cas, rangez les chips et écoutez le podcast des médiateurs. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Nathanaël Gobanceau, pour nous parler du musée Rabelais. La Devinière, on rappelle que c'est à Seuilly, alors c'est pas la porte d'à côté.
Oui, c'est à moins d'une heure de Tours. Hein.
Voilà, quand même, c'est pas non plus à l'autre bout du monde.
Voilà, c'est le bout du département formellement, le bout de la région formellement, mais ça veut pas dire que c'est loin. Tours est assez bien centré, et donc c'est moins d'une heure, ça peut faire l'objet d'une demi-journée ou d'un pique-nique. Il y a plein de lieux pour pique-niquer dans le coin.
Voilà, et pour nos amis qui se déplacent à vélo, c'est accessible aussi?
Oui, on a de quoi accueillir des vélos, on a de quoi les réparer, même s'il y a des crevaisons, en théorie, on peut, non pas aider, mais donner le matériel. Et donc voilà, c'est tout à fait accessible. Ce sont des toutes petites routes qui entourent le musée et qui sont bien pour les vélos. Il y a tout un parcours spécial pour les vélos.
Voilà, plus d'excuses. Eh ben, merci encore et on va terminer cette émission en écoutant un nouveau titre de Malicorne. Allez, quand je menais mes chevaux boire. Voilà. Ça a changé un peu du vélo. Merci.
Ah, c'est pas une chanson rigolote. Hein.
Bah non, mais bon, on peut pas tout le temps rigoler. Bonne journée à
tous.
Au revoir.
Bonne journée.
joli l'œil de rire.